Alors, on est en juin 2011 et je suis étudiant à l'IUT à Besançon. Et donc, pendant les vacances scolaires entre les 2 années, j'ai décidé de rester à Besançon pour travailler en job d'été dans un magasin de prêt-à-porter de luxe accessible. C'est un milieu que je ne connaissais pas avant, je le découvre puisque j'ai jamais travaillé dans le prêt-à-porter avant, c'est la première fois. Donc, je commence à travailler en tant qu'extra-solde. J'ai un contrat de 2 mois à peu près, un petit peu moins. Voilà. Mon travail, c'est de tenir le stand homme de cette marque. Et donc, pendant ces 2 mois, je vais passer 9 heures par jour sur le stand avec un collègue qui s'appelle Michel. Michel, il est plus vieux que moi parce que j'ai 19 ans à l'époque et lui, il en a déjà plus de 30. On passe vraiment 9 heures par jour ensemble sur un stand, c'est-à-dire que pendant 9 heures, on est tous les deux. Il n'y a pas beaucoup de clients parce que c'est une marque de luxe accessible. Du coup, on a géré 3 ou 4 clients par jour. Donc, la plupart du temps sur le stand, on le passe ensemble à plier des vêtements en discutant. Quand on discute 9 heures par jour, ça fait forcément beaucoup. On commence à s'ouvrir, à se livrer des choses sur notre vie personnelle, que ce soit familiale, amicale, amoureuse. Il m'apprend, par exemple, qu'il n'a pas énormément d'amis dans Besançon parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps, mais qu'il vit avec sa copine, mais qu'il est bisexuel. Et pour cette raison, en fait, souvent, quand il y a des clients hommes qui viennent sur le stand, il les accompagne jusqu'aux cabines. Et parfois, il rentre dans la cabine avec eux, et quand il sort, il a un petit sourire, et il me dit, ah, Nathan, je suis trop content, je lui ai touché le sexe, ou il s'est passé quelque chose, ou voilà. Moi, j'accueille ces nouvelles plutôt positivement, en me disant, bah, tant mieux pour lui. Un jour, il y a un épisode un petit peu étrange qui se produit, où il emprunte une veste en cuir qui venait d'arriver sur notre stand. Donc, c'est une veste en cuir qui coûte à peu près dans les 400 euros. Et il la prend en m'expliquant qu'il ne la paye pas tout de suite, qu'il la paiera plus tard puisqu'on n'a pas encore reçu les salaires. Et que donc, en attendant de recevoir le salaire et qu'il soit en mesure de la payer, il va la déclarer provisoirement volée en m'expliquant que, bah, on déclara qu'on l'a retrouvée le jour où il pourra la payer. Moi, je lui dis, ben, il n'y a pas de problème, hein, tu fais ce que tu veux. De toute façon, t'es un grand garçon, c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire ou pas. Et puis on sort le soir, comme souvent, du coup, avec d'autres collègues qui travaillent au stand femmes. On s'est retrouvés dans la rue à la tombée de la nuit, à marcher en direction d'un bar. Et puis Michel portait sur lui cette veste qui venait juste de sortir du stock. Parmi ses collègues qui travaillent au stand femmes, il y en a un qui a quelques ambitions d'évolution professionnelle au sein du magasin et qui est réputé un petit peu pour ne pas hésiter forcément à failloter si nécessaire. Et en fait, ce collègue du stand femme a tout de suite remarqué que Michel porte une veste en cuir qui fait partie des nouveaux arrivages de la marque. Et donc, il lui fait une réflexion sur cette veste. Ah, tu t'es acheté une nouvelle veste? Puis Michel dit oui, je l'ai achetée, etc. Il lui dit pas qu'il ne l'a pas payée. Et le lendemain, ce collègue du stand femme monte dans notre stand avant qu'on arrive pour fouiller l'ordinateur et vérifier qu'effectivement, il y a bien eu une vente de cette veste-là pour vérifier que Michel avait payé la veste. Et là, il découvre en fait que la veste a été déclarée volée. Il vient sur le stand après, plus tard, parler avec Michel de ce point-là. Michel lui dit que non, il s'est trompé quand il a déclaré volée. Il voulait déclarer volée cette veste, mais une autre taille en fait. Et que lui, il a bien payé sa veste. Et les jours ont passé, les semaines ont passé. On a continué à sortir, à nouer des liens, à parler, etc. Jusqu'au jour où je suis tout seul sur le stand, puisque Michel est en jour de repos. Et il y a un homme qui donc a plein de sacs dans les bras, d'habits achetés dans différents stands des Galeries Lafayette, et il me demande si Michel est là. Je réponds que non, Michel est en jour off, mais que si besoin, moi je peux l'encaisser, il n'y a pas de problème. Il me répond que non, c'est gentil, mais que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Michel, qu'il reviendra demain pour le voir. Mais il me dit que ça l'embête un petit peu de reposer toutes ses affaires, il me demande si je peux les mettre dans la réserve. Je lui dis que habituellement ça se fait pas trop, mais que je peux le faire jusqu'à demain et que s'il revient pas demain, je reposerai en rayon, mais s'il revient demain, ça devrait aller. Donc je mets les affaires dans la réserve et puis je laisse un mot à Michel, puisque le lendemain, c'est à mon tour d'être en repos. J'apprends par Michel, le lendemain, qu'il a été renvoyé de la marque de vêtements. Et il m'explique un petit peu vaguement que c'est pour une affaire de vol, qu'il a aidé un ami à voler quelques vêtements aux Galeries Lafayette et que ça a pris un peu des proportions inattendues. Voilà. Du coup, il m'envoie un message comme ça, un petit peu étrange en fait, que je comprends pas, parce que dans le message, il s'excuse vis-à-vis de moi. Et c'est dans les jours suivants, en discutant avec les autres vendeurs, que j'apprends un petit peu plus ce qui s'est passé ce jour-là où j'étais absent. Et apparemment, l'homme que j'avais rencontré et qui m'a donné le sac à mettre en réserve est revenu le lendemain. Et effectivement, Michel n'a passé en caisse qu'une paire de tongs de cette marque-là, qui coûtait une trentaine d'euros. Et le reste des achats, il ne l'a pas fait payer. Du coup, l'homme a donné, je sais pas, 300 euros en liquide ou 500 euros en liquide à Michel. Ce procédé-là, Michel l'avait avec beaucoup de clients différents. C'était une arnaque organisée vraiment depuis le début. Donc c'est la raison pour laquelle il allait s'enfermer dans les cabines avec des clients. Quand il revenait pour me dire tout content qu'il avait flirté, bah en fait il s'était juste mis d'accord sur combien les clients allaient lui donner en liquide, comment il allait faire sortir les vêtements, etc. Après l'histoire, j'ai appris que en fait, ça faisait plusieurs semaines que Michel il était surveillé par les services de sécurité et que ce jour-là, après son encaissement, il y a une vendeuse qui est venue vérifier le dernier encaissement réalisé et qui a vu qu'il n'y avait eu que 30 euros d'encaissé alors qu'en réalité, il y avait pour 3000 euros de fringues. Après, on a parlé un petit peu par texto, je ne sais plus qui a envoyé le premier message à l'autre. Je voulais pas le couvrir de reproches en plus de son renvoi. Je sais qu'il n'a pas fait ça contre moi, je lui en veux vraiment pas. S'est pas fait renvoyer, il a été contraint de démissionner en échange de quoi il n'y aurait pas de plainte contre lui puisque la marque ne voulait pas salir son image en portant plainte contre lui et en dévoilant cette histoire. Moi, ça a eu quelques toutes petites conséquences professionnelles, c'est qu'à l'époque, ça se passait plutôt bien pour moi dans ce magasin, et qu'il était prévu que je signe un mi-temps à la rentrée, à côté de mes études. Et en fait, après cette histoire-là, j'ai jamais eu de nouvelles à mes relances. Donc je pense qu'en fait, ils ont considéré que j'étais impliqué en tant que complice ou quelque chose comme ça. Depuis cette histoire-là, j'ai eu plusieurs cas comme ça où j'ai fait des rencontres de gens où ça matchait bien et où je me suis directement dit, tiens, lui, ça peut potentiellement être un ami ou elle, ça peut potentiellement être une amie. Et où j'ai quand même gardé une réserve sur mon engouement pour cette nouvelle relation, on va dire. Donc, sur la confiance que je pouvais accorder à ce que l'autre me racontait, sur la véracité de ses faits, etc., je remets beaucoup plus en question les histoires que des inconnus me racontent ou des nouvelles rencontres me racontent. Michel, j'ai découvert que et son nom et son prénom étaient faux. Et par exemple, son adresse, c'était en fait l'adresse d'un fleuriste. J'ai découvert que il n'était pas en couple avec une fille comme il me l'avait prétendu. Donc tout ce qu'il m'a raconté sur elle, sur sa personnalité, sur son nom, etc., j'ai plus de détails, mais bah c'est faux. Ce qui me perturbe un petit peu dans cette histoire, c'est que je me rends compte après coup que, tout compte fait, je ne connais rien de cette personne. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas si ce qu'il m'a dit c'est vrai et si oui, à quel point. Et je ne sais rien de Michel en fait. Pas même son prénom.